Le livre de la Genèse nous raconte qu'après 6 jours de création, le monde était d'une beauté extraordinaire. Dieu avait créé un ciel d'un bleu incroyable. Dieu avait créé une terre avec une végétation luxuriante, de toute beauté, pleine de couleurs. Il avait mis dans le ciel des oiseaux incroyables. Des animaux marchaient sur la terre avec élégance, avec majesté. Ils étaient les compagnons de Adam et Ève que Dieu avait créés. Dieu ne nous donne pas une foule de détails sur la manière dont il l'a fait, mais il nous dit qu'il l'a fait. Et ainsi, à la fin de ce chapitre premier de la Genèse, nous avons un monde extraordinaire. Et à la fin de ce 6e jour, Jésus vient et invite Adam et Ève à vivre le 7e jour de la semaine, le sabbat. Un jour particulier, un jour de communion, un jour où ils vont parler ensemble. Le 7e jour de la semaine était destiné à être un jour de relation entre Dieu et ses créatures. Et puis, j'imagine Jésus qui se présente et qui vient voir Adam et Ève vendredi soir et qui les invite à commencer cette journée spéciale. C'était une journée tout à fait particulière, en fait, la première journée de Adam et Ève. Et alors qu'ils parlaient ensemble, j'imagine qu'en voyant le soleil se coucher sur ce premier vendredi, Jésus a dû avoir une image qui a passé dans son esprit. Oh, Adam et Ève n'en ont rien su. Aucune ombre n'est passée sur son visage, mais une image est passée dans son esprit. Alors que le soleil se couchait sur ce premier vendredi de l'histoire, Jésus a vu dans son esprit un autre vendredi soir, 4000 ans plus tard. Hors des murs de Jérusalem, il a vu dans son esprit cette colline qui s'appelle Golgotha avec une croix et il a vu que lui était dessus, en train de souffrir et de mourir pour l'humanité dont il avait sous les yeux les 2 premiers représentants. Il savait, en ce premier vendredi soir de l'histoire, que 4000 ans plus tard, aussi un vendredi soir, il donnerait sa vie pour l'humanité qui se trouvait derrière Adam et Ève, avec qui il parlait maintenant. Il n'en a rien dit, c'était un jour de joie ce premier sabbat. C'était un jour de réjouissance par rapport à cette œuvre glorieuse, extraordinaire, qui dépasse l'imagination qui se présentait sous leurs yeux. Adam et Ève émerveillés de ce que Dieu avait fait autour d'eux. Et Jésus, dans ce premier sabbat, les a introduits à l'immensité de son œuvre. Jésus a pensé à ce moment où, 4000 ans plus tard, il allait dire: tout est accompli. En réalité, c'est exactement le même sens que ce texte qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et au verset 1er. Il est dit: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Son œuvre était achevée. C'est bien entendu un mot ici en hébreu et dans le Nouveau Testament, un mot en grec par rapport à ce que Jésus disait. Mais ce qu'il a dit sur la croix, c'est exactement la même chose que ce que nous avons à la fin de la création, à l'entrée du sabbat. Cette œuvre est achevée. En fait, ces 2 sabbats, éloignés de 4000 ans, sont pourtant extrêmement proches. Dans le premier, Jésus se repose de son œuvre créatrice. Dans le deuxième, dans la tombe, Jésus se repose de son œuvre rédemptrice qui est aussi achevée à ce moment-là. Et ainsi, le sabbat, dans cette notion de repos, prend une signification tout à fait particulière. Ce premier sabbat de l'histoire, tout comme ce sabbat, juste après la croix, ont été tous les deux l'objet d'une joie et d'une réjouissance extraordinaire dans le ciel. Réjouissance devant cette œuvre de la création que Dieu avait faite. Réjouissance par rapport à la victoire que Jésus avait gagnée sur le péché. Et on est là devant un paradoxe incroyable. Comment se réjouir d'une victoire lorsque quelqu'un en meurt? Pourtant, s'il n'y avait pas une grande joie sur la terre, le ciel éclatait en joie devant la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort. Parce qu'en réalité, cette victoire sur le péché, ce repos de Jésus dans la tombe, était devenu la garantie qu'il allait pouvoir un jour créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Qu'il allait un jour pouvoir revenir à l'étape numéro 1 de Genèse et recréer le monde pour l'homme et la femme tel qu'il avait prévu. Ainsi, ce jour de sabbat était particulier parce qu'il annonçait le moment où, avec non pas Adam et Ève, mais avec toute l'humanité sauvée, Dieu revivrait ce repos de la nouvelle création. C'était garanti par le repos dans la tombe. C'est la raison pour laquelle le jour du sabbat garde une signification à travers l'éternité. Le prophète Ésaïe nous en parle. Regardez avec moi dans Ésaïe au chapitre 66, ce qui est écrit au verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. On comprend que pendant l'éternité, le sabbat va garder une signification particulière et à juste titre. C'est qu'il est en rapport direct avec non seulement la création, mais avec la rédemption dont les résultats seront visibles durant l'éternité entière. Ce jour de repos est éternellement lié et à la création et au repos du Christ dans la tombe. Ainsi, ce repos de Jésus nous garantit que nous pouvons aussi avoir par lui le repos pour nous-mêmes. Nous sommes d'ailleurs invités à suivre Jésus dans son exemple. Vous vous souvenez de ce passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, où nous sommes invités à suivre l'exemple de Jésus. Épître aux Romains, chapitre 6, verset 3. Il est écrit ceci. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Nous sommes invités à suivre Jésus dans sa mort. Et l'apôtre Paul ici fait comprendre l'importance extrême du baptême en rapport avec cela, du baptême biblique, c'est-à-dire du baptême dans lequel on est enseveli symboliquement, entièrement immergé dans l'eau, pour en ressortir, symbole de la résurrection avec Christ. Mais bien sûr, si nous sommes invités à suivre cet exemple, nous sommes invités aussi à mourir à nous-mêmes. C'est le sacrifice que le Seigneur nous propose pour pouvoir revivre avec lui. Mourir à nous-mêmes. Et vous savez, comme moi, combien cette démarche est difficile, combien elle est dure. Pourtant, dans le baptême, nous acceptons de mourir à nous-mêmes, d'appartenir à ce repos que le Christ nous donne et d'envisager, d'attendre la recréation. Ainsi, le repos du sabbat nous rappelle que finalement, la seule œuvre qui importe, ce n'est pas celle que nous avons faite, c'est celle que Dieu a faite, en nous créant et en mourant pour nous sauver. Ce qui importe, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce que nous avons à faire pour lui, c'est le recevoir, c'est l'accepter. Il y a donc ainsi deux sabbats d'une extrême importance pour nous. Le premier dans lequel nous célébrons avec le Christ son œuvre créatrice. Il est Dieu après tout, il est le Tout-Puissant. Et puis ce deuxième sabbat dans lequel nous célébrons avec lui son œuvre rédemptrice. Deux jours de repos. Et je pense à Jésus, qui marchant avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, voyait déjà en perspective, 4000 ans plus tard, ce jour de repos qu'il passerait dans la tombe, hors des murs de Jérusalem. Le repos du sabbat, le repos qu'il veut donner à tous ceux qui acceptent de vivre avec lui les deux sabbats de l'histoire. Et c'est justement parce que le moi redresse trop souvent la tête que nous tombons dans le péché. Et ainsi, nous avons besoin de retrouver le repos en Jésus-Christ, le pardon. Et c'est précisément ce que nous sommes venus faire ce matin. La Sainte Cène à laquelle nous allons participer, c'est ce repas symbolique qui nous permet de revenir à Christ et de recevoir à nouveau le repos. Le repos qu'il a acquis pour nous au prix de son sacrifice. C'est indispensable parce que nous avons besoin de ces deux repos. Nous avons besoin de ce repos dans lequel nous obtenons, au prix de son sacrifice, de sa mort, le pardon. Nous avons besoin de mourir à nous-mêmes. Et puis nous avons besoin de ce deuxième sabbat qui est celui de la création ou de la recréation. Nous ne pouvons ressusciter que si nous mourons, pas de résurrection pour ceux qui sont encore vivants. Nous avons donc besoin de ces deux sabbats, de ces deux repos. L'un dans lequel nous mourons à nous-mêmes et l'autre dans lequel il nous redonne la vie. David d'ailleurs avait fort bien compris ce processus. Dans le psaume 51, qui est le psaume sur la repentance, David nous montre à quel point il avait compris ces éléments-là. Nous les retrouvons dans ce psaume, c'est le psaume 51, au verset 4, par exemple, il parle de cette mort à soi-même et du pardon que l'on reçoit. Psaume 51, verset 4 dit « Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. » Il demande à Dieu de lui accorder ce repos qui n'est possible que grâce au repos dans la tombe que Jésus a vécu suite à son sacrifice. « Accorde-moi le pardon. » Et puis un peu plus bas, au verset 12, David demande le repos de cette création accomplie, de cette recréation en disant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Nous avons besoin de ces deux sabbats, nous avons besoin de ces deux repos. Et aujourd'hui, alors que nous allons nous présenter devant cette table symbolique du repas de Sainte-Cène, je vous propose de le faire dans cet état d'esprit, de venir chercher auprès de Dieu ces deux repos de sabbat. Le premier dans lequel nous mourons à nous-mêmes pour obtenir son pardon, le deuxième dans lequel nous lui demandons « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen.